C'est moins cher dans le parti couvert. Allez, allez,
allez. Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour, amis bons vivants, à la maison, en voiture ou ailleurs, merci d'être avec nous. Hein. Le poulet, vous le savez, la volaille préférée des Français, eh bien du fermier au labellisé, nous allons le passer à la casserole dans un instant. Quels sont les plats de chef qu'il faut avoir mangé une fois dans sa vie? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Laissez-moi vous présenter la bande de ce samedi. Il y a belle lurette qu'elle s'est convertie à une cuisine joyeuse, sans abîmer la planète. C'est Anne-Laure Femme, bonjour Anne-Laure.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver.
Plaisir partagé. Il faut toujours avoir un ami avocat, un ami médecin et un ami qui s'y connaît en vin. Chez nous, c'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Eh bien, je suis bien plus compétent, effectivement, sur les vins que sur les deux premières disciplines. On fait ce qu'on peut. Hein.
Fanny Rascle nous rejoint avec son journal de la cuisine dans un instant. Et puis Jean-Luc Petit-Renaud tape du poing sur la table ce samedi. Ce sera vers midi moins le quart. Bon vivant, notre invité est un homme d'État connu pour sa liberté de parole. Jean-Louis Debré viendra partager notre plat du jour. Eh bien voilà, vous savez et tout à table. Avant d'aller faire un tour au marché, remontons le fil de nos souvenirs, les souvenirs de nos papis. Quel goût a marqué votre semaine? Souvenez-vous à la maison, en podcast ou en voiture, où que vous soyez. Anne-Laure Femme, le goût qui a marqué votre semaine?
Et moi, c'est le tagine, un plat d'Iran. C'est un gâteau de riz aux épinards avec des graines de grenade et du safran.
Un gâteau aux épinards?
Oui, au riz, surtout beaucoup de riz. C'est délicieux.
Gâteau
c'est
salé,
délicieux
alors.
Comme gâteau salé, un vrai plat en soi que vous pouvez prendre pour le déjeuner dans la nouvelle boutique ouverte par les cuistots migrateurs. On en a déjà parlé ici à l'antenne. Un magnifique traiteur qui embauche des chefs réfugiés. Vous trouverez aussi plein de plats d'Éthiopie, de Syrie, d'Afghanistan, pardon, et du Népal à déguster dans une toute nouvelle adresse parisienne. 81 boulevard Voltaire dans le 11e.
Très bien.
Cuistot migrateur.
Ça, c'est
allez-y.
Précis.
Et il y a un super livre qui est sorti à la Martinière aussi.
Eh ben, bravo, c'est complet. Merci Anne-Laure. Olivier Pouls, camarade, votre goût de la semaine.
Eh bien, mon goût de la semaine, regardez, il est devant vous.
Ah
je
oui.
vous en ai
ah
rapporté.
Oui, on dirait un petit champignon qui a poussé
oui,
sur la table.
C'est vrai.
Mais non, pas du tout. Alors j'étais à Bordeaux, j'ai fait un petit aller-retour. Et quand je vais à Bordeaux, bah, je reviens avec des cannelés.
Mmh. Ah, c'est
voilà,
cochon.
C'est le cannelé bordelais, c'est délicieux. Petite gourmandise. Voilà. Alors celui-là, il est en plus, alors déjà le cannelé c'est bon, mais alors quand en plus on rajoute une couverture chocolat par-dessus, c'est assez mortel.
Ah oui, c'est bon.
Et le cannelé on peut en faire chez soi, c'est pas très très difficile, des œufs, du lait, de la vanille, un petit peu de rhum.
Faut juste
et puis
le moule.
Surtout des moules, voilà, des vrais moules en fonte.
C'est bon. Bah, ça me fait penser à un monsieur que j'ai connu qui s'appelait André Caz, qui était pâtissier chez Baillardan, la fameuse maison à cannelé, qui m'a donné la recette originelle de ces cannelés et il la vendait déjà à Paris dans le métro il y a très très longtemps.
Moule en cuivre en réalité.
Ah, absolument, moule en cuivre, toujours.
En fonte,
en cuivre,
précisant,
oui, il faut que ce soit conducteur, oui, c'est le cuivre, comme la confiture. Mon goût de la semaine, moi, c'est encore un goût d'été, j'aime prolonger l'été le plus longtemps possible cette année, c'est les aubergines à la parmigiana. J'ai fait ça hier soir pour ma famille. Quelques belles aubergines que vous faites revenir comme ça dans de l'huile d'olive.
Tout
une
simple.
Belle sauce tomate. Il y a encore de belles tomates. C'est la fin des tomates. Donc on se fait plaisir. On la relève bien avec de l'ail. Et on alterne les couches d'aubergines, de sauce tomate, de mozzarella et de parmesan. Vous faites gratiner ça au four une bonne demi-heure, 40 minutes comme ça à 180 degrés. C'est super. C'est même un plat complet ça.
Et rappelons que la mozzarella, c'est pas du tout qu'en été. Hein, surtout pas. Ça
non, non.
continue là.
Exactement. Vous
alors,
avez
allez-y.
Raison. Oui,
non, mais
une belle
vous,
mozzarella.
C'est l'été jusqu'en décembre.
Oui, non, ça y est, c'est bientôt fini là. Mais jusqu'à début novembre, je me suis promis. Ben non, mais c'est vrai que les produits sont encore là, donc il faut en profiter.
Continuez à mettre de la presse-soleil aussi. Bon.
C'est ça aussi, oui, c'est ça, pour faire croire. C'est l'heure d'aller au marché. Tiens, on va faire une devinette. Si je vous dis Lionel Gougelot, vous me dites quelle région?
Le Nord, ma
Le
foi.
Nord, évidemment.
Le Nord.
Direction Lille, au marché de Vazem. Lionel Gougelot vous a demandé vos recettes de saison.
Des panais, des carottes et une courge butternut.
Ouais. Vous allez faire quoi avec ça?
Je vais faire de la soupe. C'est la première de l'année.
J'ai pris les tomates, c'est la fin. Et bon, il paraît que c'est la fin des courgettes. Donc ça, j'en prends aussi.
Et la mâche, là?
Ça commence tout juste pour la saison. Je la fais en salade, simplement. Et quelquefois avec un peu de betterave rouge et des œufs durs. Mais c'est bon aussi.
Il y a encore quelques légumes d'été, là, dans votre panier?
Ah bah heureusement, oui. Les derniers, oui. Il y a des aubergines, des tomates à peu près mûres et des courgettes. C'est la ratatouille.
Carottes, brocolis, puis des champignons, je vais prendre aussi.
Et avec ça, vous allez faire
Un wok. Je vais faire un wok.
Bon, j'ai pris des poireaux pour faire une tarte aux poireaux.
Des poireaux.
Il y en a déjà depuis quelques semaines quand même, là.
Des poireaux. Moi, c'est pour accompagner les coquilles Saint-Jacques, donc je vais les cuire à la vapeur, puis après, je vais passer au beurre.
C'est de jolies couleurs quand même. C'est vachement beau, moi j'adore.
Et comment que c'est vachement beau? Vous avez raison, madame, on mange d'abord avec les yeux, les couleurs chatoyantes de l'automne.
Et c'est vrai que notre cœur balance là. On ne sait pas vraiment si on termine vraiment l'été, on le prolonge comme on
c'est
le disait,
ce que je
ou
vous
si
disais.
On bascule dans les poireaux, les panais, tous ces produits
encore
divers.
L'aubergine, encore la courgette, une bonne quinzaine de jours. Mais c'est vrai qu'on arrive évidemment à la fin. Les courges vont débarquer, donc là on aura un beau festival de courges.
C'est l'automne.
Les butternuts, les potimarrons, la courge pomme d'or.
Puis les champignons sont là aussi.
Ah les champignons, ah oui, on en parle régulièrement en ce moment. On a eu Jacques Marcon avec nous au téléphone la semaine dernière et on reparlera des champignons aussi la semaine prochaine à la table des bons vivants. C'est le week-end, rien de tel qu'une belle volaille pour réunir tout le monde autour de la table. Comment reconnaître un bon poulet? Eh bien on va vous dire comment il faut faire. Juste après ça, tout de suite, ne bougez pas, bon samedi matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Poulet fermier, poule de Houdan ou de Touraine, poulet jaune des Landes, ce matin nous déclarons notre flamme aux belles poules et aux poulets qui gambadent pour notre plus grand plaisir. C'est vrai que le week-end, c'est toujours l'occasion de se retrouver en famille ou entre copains autour d'une belle volaille, le poulet du dimanche ou du samedi si on a envie de le faire.
Ou du mercredi ou du jeudi.
Mais voilà, il faut manger un poulet par semaine. Voilà. Pour commencer, tiens, on va faire un petit peu de science naturelle, les amis, Anne leur femme. Quelle est la différence entre une poule et un poulet? Ça peut paraître comme ça rigolo quand je pose la question, mais tout le monde ne le sait pas. Alors tiens, vous qui avez été prof de SVT, racontez-nous.
Et oui, le poulet, c'est le petit de la poule. Et c'est aussi bien un mâle qu'une femelle. Et c'est donc une jeune volaille qui n'a pas atteint sa maturité sexuelle.
Ouais, c'est un ado qui n'a pas choisi son sexe.
Voilà. Il n'a pas choisi son genre encore.
C'est ça,
et après sa croissance, qu'est-ce qu'il devient? Il devient soit un coq, soit une poule pondeuse.
Exactement.
Ouais, vous savez tout.
Et ben voilà, c'est clair, net et précis. Alors loin des poulets de batterie, vous pensez bien. Faisons le point sur les poulets fermiers, labellisés, bio ou pas, hein, sans oublier les races anciennes chères à Olivier Poule. Et à la table des bons vivants, on va commencer, tiens Olivier, par les volailles fermières label rouge. On voit des labels rouges chez le boucher, on en voit en supermarché. On va rappeler un petit peu le cahier des charges, tiens, du label rouge.
Oui, il y a un cahier des charges qui est relativement simple. En fait, ce sont des poules qui sont élevées en plein air. Alors, il y a deux différenciations. Ce qu'on appelle en plein air avec un espace clos relativement réduit, environ 2 mètres carrés par poule. Et puis sinon, en liberté, où là, elles peuvent vraiment gambader partout où elles veulent, ce qui est quand même plus intéressant.
Et picorer des vers de terre,
entre autres. Et puis après, il y a des durées aussi d'élevage. Pour un label rouge, c'est 80 jours au minimum. 80 jours, ce n'est pas beaucoup. Il faut savoir que vous avez des éleveurs sont en dehors du label rouge et qui vont bien au-delà, à 180, parfois plus de 200 jours.
C'est le minimum. Alors bien loin, évidemment, des poulets de batterie qui sont à 30-40 jours. Et alors là, on a une chair toute molle, des squelettes atrophiés. Enfin, on a vraiment modifié les races pour qu'elles supportent quand même ces types d'élevage qui sont aujourd'hui, franchement, il faut bien le dire, plus possibles à soutenir.
N'hésitons pas à interroger le boucher qui sera ravi de vous expliquer le nombre de jours, d'où ça vient. Il faut qu'il puisse vous donner des informations. N'hésitez pas.
Alors il y a les volailles bio, on les voit aussi partout, elles sont plus chères, on le sait que le bio coûte plus cher. C'est assez flagrant, je trouve, sur les volailles bio. Quand vous êtes en supermarché et que vous voyez une barquette de filets de poulet où il y en a deux à 10 euros, quand même, c'est vrai qu'on se pose des questions. Mais le bio, voilà, c'est l'alimentation, surtout Anne-Laure, qui doit être bio pour avoir cette appellation.
Une volaille bio, c'est comme une volaille fermière. Elle est aussi élevée en plein air, en liberté, sauf qu'elle va être alimentée à base de nourriture bio à au moins 90%.
C'est pour ça que moi, je pense pas qu'il faut, dans ces cas-là, à vouloir toujours à tout prix du bio. Quand on a à côté de chez soi un producteur, un éleveur qui fait de l'élevage fermier de qualité avec une relation de confiance comme ça sur son alimentation, allons vraiment vers ce producteur.
Et puis si on peut trouver du poulet à la ferme, si on a la chance d'avoir des gens autour de soi qui tuent le poulet ou qui vendent des poulets dont on peut voir, je pense à la ferme de Vertesec par exemple dans le Médoc, on voit ces animaux gambader en liberté, on a quand même une garantie sur la qualité qui est autre que quand on ne sait pas exactement la provenance.
Alors pour découvrir des races de poulets qui n'ont pas été sélectionnées, il faut scruter la carte de France département par département. C'est ce qu'a fait Slow Food, vous savez, l'association qui préserve la biodiversité alimentaire, et des races de poulets anciennes qu'on trouve encore aujourd'hui en France qui n'ont pas été transformées. Elles ont été un petit peu décimées après justement l'industrialisation, mais il y a encore aujourd'hui des résistants qui élèvent ces poules. Il y a la poule de Houdan, la poule de Contres. Vos poules préférées, tiens, Olivier Pouls?
Moi, je voudrais rendre hommage à un garçon fantastique qui s'appelle Frédéric Ménager, qui a une ferme qui s'appelle la ferme de la Ruchotte dans les arrière-coins de la Bourgogne. Et tout au long de l'année, il travaille une dizaine de variétés anciennes qu'il a vraiment réintroduites, qu'il élève avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de conscience, notamment la Barbezieux, qui est un poulet originaire des Charentes. Et quand on va manger chez lui, parce que c'est une ferme auberge aussi, on mange franchement un poulet comme on n'en mange plus nulle part.
Anne, leur femme?
Moi, je vote coucou de Rennes, en Ille-et-Vilaine.
Ah, coucou.
C'est à coucou en Bretagne, parce que c'est une race aussi de volaille rustique qui a été très répandue et qui a été relancée aussi tardivement. Elle est très jolie avec ses plumes noires et blanches, je trouve. Elle a une chair ferme, savoureuse, avec un petit goût de noisette.
Et oui, on prend ça, on achète.
Et elle est nourrie à base de maïs, d'orge, de luzerne, donc que du grain, de la céréale.
La chair du poulet doit être ferme. C'est pas bon un poulet tout flasque qui ne résiste pas.
Elle doit adhérer à l'os.
Stop au tout mou. La poule noire d'Alsace aussi. Il y a le plus vieux des poulets qui est le poulet de Gournay en Normandie que j'aimerais bien goûter. Bon allez, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour en Rhône-Alpes justement. Hein,
le message est passé.
Oui, oui, absolument. Bien entendu, le poulet de Bresse, c'est la fierté de la région Rhône-Alpes. C'est la seule volaille à bénéficier au passage de l'appellation d'origine contrôlée. Mais il ne faudrait pas négliger la volaille des Dombes, cette région d'étang au milieu de la Bresse. Élevées en liberté, les volailles sont bien nourries. Alors Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 à Lyon, a rencontré Pierre Bastin des volailles Clunier, un volailler installé depuis 30 ans au Alpes-Paul-Bocuse. Présentation de la volaille des Dombes.
Cette volaille fermière de la région des Dombes s'appelle le prince fermier des Dombes, qui est un poulet fermier qui est issu d'une volaille, ce qu'on appelle un poulet noir, un plumage tout noir et avec un cou nu. On a une volaille qui a du caractère, donc tout ce caractère, on va le retrouver du côté gustatif. D'accord. Intervolaille très goûteuse, une peau épaisse, un petit peu épaisse, bien croustillante, et qui tient très bien à la cuisson.
C'est une chair plutôt claire, plutôt foncée.
On va se reprocher sur une chair un peu nacrée, si vous voulez. Hein. Le Bresse a une chair beaucoup plus blanche parce qu'on a une grosse finition avec des bas produits laitiers. Alors que là, on est sur une volaille classique qui court, donc une volaille qui a du tempérament. Donc on sera sur une chair un peu plus nacrée. En plus, assez ferme, donc rôti qui donne toutes ses saveurs. Et en plus, si on veut la cuisiner, la découper, on a une volaille qui va tenir la cuisson. Nous, les volailles, qu'elles soient de Bresse, qu'elles soient des Dombes, on conseille de les manger rôties le plus simplement du monde, ou alors découpées avec le plat typique de la région, qui est le poulet à la crème et au morilles.
Bon, on est positionné comment en termes de coût?
Alors, cette volaille fermière des Dombes coûte la moitié pratiquement, oui, la moitié prix d'une volaille de Bresse. Voilà, quand on choisit un joli poulet fermier des Dombes pour 4 personnes, on a une volaille qui va coûter aux alentours de 20 euros. 20 euros, 1,8 kg, 1,9 kg.
Là, il y en a pour toute la famille.
Voilà, ça pour de quoi faire un bon repas. Mais bon, comme c'est tellement bon, il en reste rarement.
Et on garde la carcasse pour faire un bouillon.
Un bouillon,
hein. Merci, oui. Messieurs, beaucoup. On était dans les Halles Paul Bocuse à Lyon.
Quel est votre morceau préféré du poulet? Tiens, quand on découpe le poulet, vous prenez quel parcelle?
Le solilès.
Pilon.
Et aussi le haut de cuisse. J'aime beaucoup le haut de cuisse aussi.
Mais c'est plus gras. C'est meilleur. Je ne suis pas un fan du blanc, moi.
Un bon poulet rôti, hein. Faites-le retourner aussi votre poulet rôti dans le plat gratin, dans le four. On commence sur une cuisse, trois quarts d'heure, ensuite sur l'autre cuisse. Mmh. Et puis surtout sur la poitrine avec les fesses en l'air, comme ça pour qu'il colore bien comme il faut et puis que les blancs ne soient pas trop secs par rapport aux cuisses qui soient bien cuites.
Une touche de citron confit sous la peau.
Ah, c'est bien ça.
Ça s'appelle contiser un poulet, je trouve ça très beau.
Oui, exactement, sous la peau. On peut farcir avec des herbes aussi. Allez, vous le savez, chaque samedi, nous mettons un jour les nouvelles de notre alimentation. Fanny Rascle est en route pour son journal de la cuisine. C'est juste après ça. Bon samedi.
La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Agriculture, gastronomie, alimentation, tout fait ventre à la table des bons vivants. Heureusement que nous avons Fanny Rascle pour faire le tri. C'est le journal de la cuisine. Bonjour Fanny.
Bonjour Laurent, Fanny. Bonjour à tous.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver Fanny. Voici les titres de votre journal. Des chefs qui se mobilisent contre le gaspillage alimentaire, un nouveau magazine pour les fines bouches et des cours de cuisine pour enfants. C'est le menu du journal de la cuisine. Stop the Waste, c'est la campagne lancée dans le monde entier, Fanny.
Une campagne contre le gaspillage alimentaire donc, mais à l'initiative du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. C'est le signe que la mobilisation franchit vraiment un cap. Alors concrètement, en France, des chefs se mobilisent. Frédéric Vardon, Pierre Sang, François Pastaux. Ils vont faire de la pédagogie autour d'eux. Mais vous aussi, vous pouvez participer. Vous cherchez un vieux légume dans votre frigo. Je suis sûre que vous en avez un.
Il y a toujours un qui traîne, une carotte flétrie.
Exactement, vous faites une recette avec et vous partagez la photo sur les réseaux sociaux pour lancer le débat. Un chiffre pour bien comprendre, sur Terre, aujourd'hui, on a assez de ressources pour nourrir tous les habitants, mais on perd ou on gaspille un tiers des denrées produites.
C'est dingue, un tiers des denrées. C'était il y a quelques jours la journée contre le gaspillage alimentaire, donc soyons tous mobilisés à la maison et dans les restaurants. Le Nutri-Score modifie un peu les habitudes des Français, Fanny.
Oui, ce système d'étiquetage est en place depuis 2 ans. Une étiquette qui va du vert au rouge pour classer les aliments selon leur intérêt nutritionnel. Et une étude de Nielsen vient de confirmer que les choses bougent. Nous achetons de plus en plus de produits A et B, les plus vertueux. Et puis les marques s'adaptent, elles changent leurs recettes aussi.
Ça, c'est
mais
bien.
Ça progresse très doucement. Ouais. La moitié des produits vendus en supermarché sont encore du côté du rouge.
Et oui, du gras et du sucre. Et puis un nouveau magazine vient de sortir, c'est Fine Bouche.
Le premier numéro sort demain précisément. Un magazine à lire en ligne, sur abonnement et qui se concentre vraiment sur les produits d'exception, les meilleurs producteurs, avec un maître mot, l'indépendance. Toutes les infos sur finebouche au pluriel magazine.com.
Et votre cerise sur le gâteau, Fanny, en ce début de vacances de la Toussaint, ce sont des cours de cuisine pour les enfants. C'est bien de les occuper comme il faut, tiens.
Oui, avec des cours à domicile, c'est ça la différence. Ça s'appelle Cuisine Aventure. En fait, vous abonnez votre enfant et il reçoit tous les mois une boîte avec à l'intérieur une recette sucrée et une recette salée qui sont expliquées vraiment pas à pas. Dans le colis, il y a aussi un petit cadeau alors utile, un ustensile, un sachet d'épices par exemple.
C'est pour les enfants à partir de quel âge, ça ?
Alors, vous pouvez configurer la boîte. Vous donnez l'âge de l'enfant, s'il a des allergies alimentaires aussi. Vous listez ses compétences, s'il s'est déjà un peu cassé un œuf par exemple. L'idée, c'est qu'il puisse vraiment cuisiner tout seul. La cible, c'est les 6-16 ans. Pour les plus petits, il faudra quand même être avec eux pour allumer le four, par exemple.
Oui, comme ça dit, il y a des adultes qui cuisinent moins bien que les enfants.
Ça existe. Les boîtes, hein. Ça coûte combien, ça, Fanny ?
Alors, ça coûte 15 euros à peu près la boîte. Donc, c'est moins cher qu'un vrai atelier de cuisine, mais c'est quand même un petit budget. Tiens, pendant qu'on parle des vacances scolaires, vous pouvez poursuivre sur le même thème avec une visite de l'exposition « Je mange, donc je suis » au Musée de l'Homme à Paris. On en parle juste après.
Exactement. Merci beaucoup, Fanny Rascle. Et à la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Anniversaire de mariage, remise de diplôme, entrée dans l'âge adulte. Quand on souhaite fêter une grande occasion, c'est pas toujours facile de trouver le grand restaurant adapté. Alors heureusement, Hélène Luzin vient de publier 50 plats de grand chef qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Et aujourd'hui, elle va nous donner tous ses tuyaux. Bonjour Hélène Luzin.
Bonjour, merci de me recevoir. Alors, j'adore ce que vous dites parce que c'est exactement pour ça que j'ai écrit ce livre. J'en avais un petit peu marre qu'on me dise où est-ce que je fête mes 10 ans de mariage, la communion. Et je me suis dit, finalement, on dit toujours tel chef, tel endroit, telle ville, nombre d'étoiles. J'ai dit, allez, hop, on balaye tout ça.
Il est super, votre livre.
Ça fait un paquet d'événements à fêter quand même. Hein.
C'est un très beau livre parce que les grandes recettes de nos grands chefs préférés, il y en a 50 hein, des chefs. Et puis surtout, c'est qu'on apprend beaucoup sur ces chefs à travers justement les plats qu'ils racontent. On va en reparler. On peut dire que les plats de grands chefs, vous êtes tombés dans la marmite quand vous étiez petite, Hélène Luzin.
Exactement. Hein. Mon papa, Francis Luzin, a créé le magazine Le Chef en 1986 et je l'ai toujours suivi au restaurant. J'ai adoré goûter plein de plats avec lui, et notamment la purée de Joël Robuchon, qui était très accessible pour une gamine de 12 ans.
Purée à la rate,
voilà,
montée au foie, au beurre, beaucoup de beurre. Tiens, trois plats qu'il faut avoir goûté dans sa vie, s'il fallait en choisir, je ne vous en demande pas un. La purée, vous venez d'en parler, mais trois plats, tiens, pour nos auditeurs, donnez-leur l'eau à la bouche.
J'ai un petit fait pour la langoustine, donc je dirais la langoustine craquante d'Éric Prat, Maison La Meloise à Chagny. Le chou farci de Mathieu Vianney, qui est absolument extraordinaire, je n'ai jamais mangé un chou farci pareil.
À la mère Brasier à Lyon.
Ouais. Exactement. Et enfin, c'est trop dur, mais je vais trouver...
Alain Passard, Alain Ducasse.
Ah oui, l'œuf d'Alain Passard, bien sûr.
Mais il sera avec nous au téléphone tout à l'heure, Alain
Formidable.
Passard, justement. C'est vrai que cette purée de Robuchon, elle est complètement dingue. Et vous racontez dans le livre un truc invraisemblable. Et c'est à ça qu'on voit qu'un grand plat devient grand. C'est que les Américains demandaient la purée en dessert, tellement ils aimaient cette purée. C'est ça, hein ?
Exactement.
Ça dit, je suis parfaitement capable de le faire aussi, hein, vous inquiétez pas. Oui, hein, pas besoin d'être américain pour
ça. Elle est très bonne. Alain Ducasse, Alain Passard, Anne-Sophie Pic, Emmanuel Renaud, Arnaud Lallemand. Ces chefs cuisiniers sont assez pudiques. Quand on les connaît bien, un peu taiseux parfois, et on a l'impression qu'ils se racontent plus que dans une interview quand vous leur faites parler de leur plat préféré, de leur plat signature.
Exactement. En fait, ils se lâchent complètement et ils vous racontent l'histoire. Et en fait, à chaque fois, je leur posais la même question. Quel est le processus créatif du plat ? C'est vraiment pour moi quelque chose d'hyper important. Comme un artiste peintre, on peut lui demander quel est le processus créatif ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Qu'est-ce qui a fait que tu as créé ce plat ? Et en fait, il se raconte à travers cette question.
Il y a un chef un peu parano, non ? C'est Manuel Martinez du relais Louis XIII à Paris. Il a mis le déroulé de sa recette de quenelle au bar de ligne en trois parties rangées dans trois coffres forts différents pour
c'est pas
qu'on
vrai.
Puisse lui piquer. Mais si, c'est vrai, c'est dans le livre.
Alors ça pourrait être mon troisième plat. La quenelle, elle est extraordinaire. Elle est, paraît-il, meilleure qu'à Lyon. Je connais surtout celle-ci. Et en fait, il n'a pas voulu me donner la recette. Donc l'éditeur m'a dit, on ne peut pas le publier. Donc là, je l'ai appelé. J'ai dit, c'est pas possible. On doit avoir cette recette. Il m'a dit, débrouille-toi. Voilà les ingrédients, débrouille-toi. Donc je suis allée voir plein de chefs. MOF, de préférence, pour le col bleu blanc rouge comme lui. J'ai dit, bon voilà les gars, maintenant il faut qu'on trouve une solution et il faut qu'il me la valide. Donc je suis allée lui présenter et il me l'a validé, donc c'était un grand moment.
C'est pire que décrypter des hiéroglyphes.
C'est un peu ça, c'est Champollion, vous avez fait Champollion de la cuisine. La bulle du marais d'Alexandre Gauthier, le chaufroid d'œuf d'Alain Passard, les racines d'endives de Laurent Petit, le saumon à l'oseille de la famille Troisgros. On continue de parler des grands chefs et de leur tube gastronomique avec Hélène Luzin. 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie, paru aux éditions de la Martinière. A tout de suite sur Europe 1 et bon samedi matin les amis.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
50 plats de chef qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Tout un programme mis en page dans un très beau livre d'Hélène Luzin aux éditions de La Martinière. Hélène Luzin, vous qui avez passé du temps à table dans de belles maisons, quelle chance déjà, hein. C'est quoi un grand plat ?
Alors c'est un plat qui vous procure une émotion. Alors quand je dis une émotion, pour moi j'appelle ça un papillon dans le ventre ou un frisson.
Comme un coup de foudre.
Voilà. Et du coup, c'est ce que je ressens quand je mange. Donc parfois, je vais dans les restaurants, je ne ressens absolument rien. D'autres fois, je ressens des choses extraordinaires. Et là, je sais que c'est pour moi un grand plat.
Et votre premier papillon dans le ventre quand vous avez mangé un plat, c'était lequel ?
L'endive de
Laurent Petit.
Laurent Petit, exactement.
Alors ça, c'est dingue. Racontez-nous ce plat, parce que c'est vrai que l'endive, c'est avec les racines d'endive qui fait un plat version gastronomique qui mérite 3 étoiles et qui a eu 3 étoiles d'ailleurs.
Et surtout, il en fait un dessert. Avec les restes, il fait un dessert, une chicorée, qui est aussi extraordinaire, qui m'a aussi donné des papillons. Donc j'en ai eu 2 chez lui, ce qui est énorme.
Olivier Pouls.
Il y a les recettes, évidemment, dans le livre.
Oui.
Est-ce qu'elles sont faisables par le commun des mortels, ou est-ce qu'il faut aller manger ces plats chez les chefs, parce qu'objectivement, on n'arrivera jamais à les refaire chez soi ?
Alors, il y en a quelques-unes qui sont faisables chez soi, comme donc la fameuse purée, mais aussi, par exemple, les cuisses de grenouille de Bernard Loiseau. Ça, c'est quelque chose que j'ai goûté aussi, je devais avoir 12-13 ans. Et c'est assez facile à refaire avec cette purée d'ail et de persil.
Quand on lit votre livre, on voit que les chefs ont pris du plaisir à se raconter à travers leurs plats emblématiques. Ils n'ont pas peur d'être réduits à leur plat, justement, signature ?
Alors, c'est une critique qu'on a pu me faire, notamment Yannick Aleno, que j'adore et qui est quelqu'un de très franc. Mais si vous voulez, c'est comme pour un peintre, un tableau, et on reconnaît qui est le peintre. Et en fait, c'est ça l'idée du... On voit le plat, on doit reconnaître qui est le chef derrière. Mais ça ne limite pas du tout sa créativité, bien au contraire. Et ce plat-là peut même évoluer.
Alors, on va retrouver justement un chef cuisinier très, très créatif et qui fait aussi des collages, en plus de ses belles créations légumières. C'est un de nos plus grands chefs, hein. C'est un compositeur qui réinvente les 4 saisons tous les jours. C'est Alain Passard que nous avons au téléphone. Bonjour Alain Passard.
Bonjour et bon vivant.
Bonjour Alain.
Il est
bonjour
où le bon vivant Alain Passard actuellement ?
Ah, écoute, là, j'arrive sur le potager, là, donc je vais voir un petit peu ce que la nature a écrit ce matin.
Ah, dans quel potager ? Parce que vous avez 3 potagers, il faut l'expliquer quand même. Hein.
Exactement, ouais, c'est en Normandie, c'est dans l'Eure, c'est un petit village qui est à côté d'Évreux, où on a un très beau terroir, très argileux, pour la betterave, les navets, les choux. Et là, on est sur une belle saison, parce qu'il reste encore quelques tomates, et il y a le début du racinaire.
Et oui, on aime ça.
Chez vous,
Alain Passard, le plat qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie, dans le livre d'Hélène Luzin, c'est le chaud-froid d'œuf au sirop d'érable et vinaigre de Xérès. Alors c'est amusant quand on sait qu'on vient chez vous pour goûter une cuisine légumière quand même.
c'est un peu un fruit. Hein,
c'est le paradoxe.
c'est la recette qui ouvre le menu, hein, elle est acidulée, caressante. Elle vous accompagne depuis combien de temps cette recette ?
Bientôt 35 ans, hein. Alors ça, par contre, c'est un plat qu'on peut vraiment réaliser à la maison. Hein. Donc, les gestes sont assez simples. Mais je pense qu'en fin de compte, les plats des grands chefs qui sont devenus des musts sont généralement des plats où le geste est très simple.
Hein. Olivier Pouls.
Moi, j'ai eu la chance de déjeuner quelques fois chez Alain Passard. Le problème chez Alain, c'est qu'il n'y a pas qu'un tube. C'est un best-of. On pourrait faire un livre sur 50 plats d'Alain Passard qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Je pense à tout ce qui travaille autour notamment de la betterave en croûte de sel ou le fameux tartare de betterave sont des plats... immanquable.
Et inoubliable, c'est vrai qu'on s'en souvient encore. Quel est le prochain plat sur lequel vous travaillez justement, Alain Passard, actuellement ?
Alors donc là, on vient d'avoir les premiers céleri raves. Premier céleri rave, j'ai pas touché un céleri rave depuis un an, donc c'est un vrai rendez-vous, quoi. Et donc, à côté du céleri rave, dans un jardin, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la châtaigne, il y a la poire. Donc là, c'est une trilogie qui est très intéressante. Et si vous avez la chance d'avoir quelques cèpes, ça fait 4 saveurs qui s'imbriquent parfaitement. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits du moment. Hein, ils naissent au même moment dans le jardin, ils sont voisins. Et donc, il y a une inspiration qui se fait autour des 4.
Eh bien, on vous laisse créer. Merci Alain Passard d'avoir été au téléphone avec nous ce samedi matin. Et bonne cueillette dans le potager alors.
À bientôt.
À bientôt Alain Passard. Hélène Luzin, dans votre livre, on découvre que la cuisine peut être mystique. Jean Sulpice, le chef de l'auberge du Père Bise à Annecy, a eu une révélation sur un plat le jour des obsèques de Paul Bocuse à Lyon. Racontez-nous ça, parce que ça fout les poils, comme on dit quand on lit cette anecdote dans votre livre.
Alors, je vous avoue que j'étais un petit peu surprise au début quand il a commencé à me raconter l'histoire. Et je lui ai dit, t'es sûre, hein, tu l'assumes, parce que je dis, tu sais, c'est pas évident de raconter ça, c'est quelque chose de très profond, de très intime. Donc tu l'assumes, pas de problème.
Donc il a inventé quel plat ?
Donc l'omble le chevalier.
Ouais, un poisson d'eau douce.
Voilà, exactement, donc proche de chez lui. Et qui est servi dans cette cloche magnifique, sur un petit radeau créé avec des serments de vigne.
Oui, il raconte qu'il a vu une illumination, il a entendu Paul Bocuse le pousser, lui souffler la recette. Enfin, c'est assez.
Oui, carrément.
Oui, c'est très, très mystique. Et ben voilà, on retrouve de belles histoires dans ce livre. Merci Hélène Luzin d'être venue à la table des bons vivants. 50 plats de grand chef qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Vous les avez tous goûtés, Olivier Pouls, ou pas?
Pas tous, un certain nombre, mais je vois que j'ai encore des lacunes. Encore quelques beaux déjeuners qui se profilent.
Merci Hélène Luzin.
Avec plaisir.
Ce samedi, Jean-Luc Petit-Renaud est en colère, vous allez entendre. Il peste contre le faux fait maison. Ça va chauffer juste après ça. Bon samedi matin.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Vous êtes bien à la table des bons vivants, les amis. Olivier Pouls.
Présent.
Anne-Laure Femme.
Oui.
Ah bah très bien. Alors avant de partager le plat du jour avec Jean-Louis Debré qui est en train d'arriver, on vous a prévu une petite balade gourmande et culturelle. Rendez-vous au Musée de l'Homme à Paris sur la place du Trocadéro. Il y a l'exposition « Je mange donc je suis » qui a ouvert ses portes mercredi. Alors c'est amusant parce que le parcours retrace l'évolution de notre alimentation de la préhistoire jusqu'à la cuisine de demain. Alors comment savoir ce que mangeaient nos ancêtres au Paléolithique ? Réponse de Christophe Lavelle, commissaire de l'expo, au micro de Julien Hamat pour la table des bons vivants.
Il y a deux sources pour reconstituer notre alimentation d'avant. C'est les restes humains, parce que ça peut nous montrer notamment en analysant les tartres des dents ou les stries sur les dents, qu'est-ce que mangeaient ces individus. Et puis les outils. Quand on remonte le temps, dans tous les cas, on trouve toujours un mélange d'aliments végétaux et animaux. C'est un peu par ironie ce qu'on pourrait considérer comme le régime idéal aujourd'hui, dans le sens que c'est omnivore et locavore. Alors, on est devant un crâne, et pas n'importe quel crâne, puisque c'est le crâne d'Antonin Carême, appelé roi des cuisiniers, cuisinier des rois. C'est un peu incongru de se dire que dans les tiroirs du musée de l'Homme, on a un crâne d'un pâtissier, en l'occurrence un pâtissier décédé en 1833. En analysant ses dents, on a exactement la même approche que pour un crâne de Néandertal, où Carême avait un état dentaire catastrophique. Toutes les dents étaient cariées, et ce qui se comprend assez facilement quand on sait qu'il passait son temps à goûter ses créations, en l'occurrence de pâtisserie.
Et oui, le sucre, il ne se lavait pas les dents, Antonin Carême. Ça, c'est une belle exposition.
C'est extraordinaire comme histoire.
Qui s'appelle « Je mange, donc je suis », et il vient d'arriver à l'instant dans notre studio, notre invité, Jean-Louis Debré. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour, et justement j'ai quelque chose à ajouter.
Ah bon, vous écoute.
À travers la nourriture, on voit exactement l'évolution sociale d'un pays. La soupe. Au départ, la soupe, c'est un bouillon. C'est un bouillon que les gens font, il y a très très longtemps, pour survivre. Et puis progressivement, ce bouillon, à travers les régions et à travers le temps, va devenir une soupe et un plat unique.
C'est vrai, alors ce que vous dites. Et en plus, ce qui est amusant dans cette exposition, c'est qu'il y aura des banquets qui vont être organisés de décembre à juin par des chefs étoilés, dont Emmanuel Perraudin, qui collabore avec un préhistorien et ils vont préparer un dîner inspiré du paléolithique.
Donc du mammouth.
Il y aura peut-être un steak de mammouth. Voilà, vous pourrez vous inscrire sur le site du Musée de l'Homme. Ça coûtera 65 euros quand même. Hein. Faut payer.
Pour... C'est cher le mammouth.
C'est cher le mammouth. Hein. C'est assez rare.
On a du mal à en trouver.
Le cours augmente.
Mais attention au mammouth d'élevage.
Il faut du sauvage. Nous sommes d'accord.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bientôt midi moins le quart. Si, vous pouvez déconner, Jean-Louis, il n'y a pas de problème. Bientôt midi moins le quart. Jean-Luc Petit-Renaud, l'ami du déjeuner, tape du poing sur la table des bons vivants. Alors, nombreux sont les restaurants, vous le savez, Jean-Louis, qui pratiquent l'assemblage de produits déjà préparés. Carte à rallonge, plat au goût standardisé. Certains indices ne trompent pas.
Vous appelez ça des restaurants ?
Mais malheureusement, ils ont le droit de s'appeler ainsi.
C'est des trucs à bouffe.
Du faux fait maison, exactement, qui n'a pas échappé à l'œil de lynx du camarade. Jean-Luc Petit-Renaud. Bonjour, bonjour l'ami Jean-Luc.
Salut les bons amis. Alors sortez vos casques parce qu'aujourd'hui je vais être en colère contre ces auberges où on ne trouve plus de passion. C'est un acte d'amour de manger. Et le manque de passion, eh bien, est une atteinte à l'amour de la belle table. Alors j'en ai marre de ces gens qui ne font qu'assembler. On appelle ça en plus cuisine maison. Alors regardez par exemple les sauces. Maintenant on trouve toutes les sauces en boîte. On ne sait plus faire une sauce au poivre quand vous avez un beau filet de bœuf avec une sauce au poivre et que vous voyez cette sauce dans un petit gobelet qui n'a pas d'allure, qui sent rien, qui vaut rien, qui n'a pas de goût, alors qu'une vraie sauce au poivre avec un fond de bœuf, avec du cognac, avec tout ça demande de la minutie. Mais elle est passée où, cette minutie? Et où est passé cet art de vivre où l'on voyait ces aubergistes avec le jet d'eau le matin asperger leur trottoir pour que la maison soit fraîche, où l'on les voyait arroser leur géranium avant que le premier client arrive? Eh bien, j'ai l'impression qu'on a un peu paumé ça et ça m'agace. Alors en même temps, il en reste de jolis et de vrais, et il faut les féliciter et leur remettre la Légion d'honneur aujourd'hui, parce que l'autre jour, j'étais dans un restaurant et nous bavardions avec un ami d'un fantasme d'un bon bœuf bourguignon. Et le patron a entendu, il est arrivé, il a dit « Si vous me laissez 2 jours, je vous le fais, ce bœuf bourguignon. » Eh bien là, c'est joli parce que c'est du sur-mesure et on a l'impression qu'on nous a regardé dans les yeux et dans le cœur.
De l'amour dans la casserole, nous sommes d'accord, Jean-Luc Coutirono. Pas mieux, nous sommes absolument d'accord. Jean-Louis Debré, vous partagez cet avis, je suppose.
Mais totalement, je trouve qu'aujourd'hui, on est en train de s'avachir. C'est-à-dire qu'on vous sert n'importe quoi, une purée. Une purée, c'est fait avec des pommes de terre, des vraies pommes de terre, et pas avec des flocons dans des sachets. Quand vous aimez la sauce tomate, j'adore la sauce tomate. Mais aujourd'hui, on vous fait des sauces tomates en boîte, alors que si vous prenez les tomates, vous les faites chauffer un petit peu, vous enlevez la peau, et après vous mettez un peu d'oignon, un peu de poivre, un peu de sel, vous avez une bonne sauce tomate. On ne sait plus travailler. C'est plat.
Il aime la cuisine, on le retrouve juste après. Jean-Louis Debré, un homme d'État qui a toujours su bien se tenir à table. Bon vivant. Je crois que j'ai des dossiers, vous verrez. Et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire en nous écoutant. A tout de suite sur Europe 1.
La table des bons vivants sur Europe 1. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien choisir sa volaille, découvrir les plats de chef qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie, remonter le cours de notre alimentation au musée, eh bien, il y a de quoi se mettre à table ce samedi à la table des bons vivants et c'est l'heure d'accueillir justement notre invité, vous l'avez déjà entendu, mais on va rappeler quand même qui il est et d'où il vient. Ancien président de l'Assemblée et du Conseil constitutionnel pendant 9 ans.
Ça c'est la partie nécrologie.
Notre invité est le fils de Michel Debré, le fondateur de notre Constitution, compagnon de table de Jacques Chirac. Ils ont tous les deux quadrillé le territoire d'auberge en auberge. Aujourd'hui, retiré de la vie politique, il écrit de nombreux livres qui rencontrent le succès. Et ensemble, nous allons partager la table et parler cuisine sans langue de bois, Jean-Louis Debré.
Ça, vous ne me connaissez pas.
Si, justement, c'est ça.
J'aime trop la bonne cuisine pour avoir une langue de bois.
Et vous aimez les coquillages parce que vous venez de sortir un très joli livre chez Albin Michel avec Valérie Bochnek. Ça s'appelle « Le temps des huîtres » et pas n'importe quelles huîtres.
Non, c'est les huîtres du bassin d'Arcachon. Et je pense que quand les huîtres, comme pour les autres plats, il faut prendre du temps. On ne mange pas en prenant le métro et en courant. Il faut prendre du temps, il faut prendre pour déguster. Mais moi, j'aime les huîtres nature. Mmh. Et je n'aime pas qu'on mette du citron ou qu'on mette du
vinaigre d'échalote
ou de l'échalote. Parce qu'à ce moment-là, vous bouffez de l'échalote.
Vous êtes un puriste.
Moi, j'aime bien ça.
Il faut la mâcher.
Un petit peu de poivre, non? Même pas?
Même pas.
Le poivre, c'est intéressant avec l'huître.
Oui, mais ça, c'est votre droit. Faites ce que vous voulez. Si vous prenez des sardines à l'huile.
Votre goût de la semaine, Jean-Louis Debré?
J'ai un de mes enfants qui était dans le sud-ouest et il m'a ramené une viande de Bazas. Vous savez que je n'ai aucune décoration.
Je sais, oui.
Sauf, je suis commandeur de l'ordre des chevaliers gras de la viande de Bazas. Il m'a ramené une entrecôte de la Bazadaise. Je me la suis fait cuire avec lui, nous étions tous les deux. On a fait une poêle très chaude et on l'a mis dessus et on l'a mangé bleu. C'était du bonheur.
C'est ça, vous n'aimez pas les viandes trop cuites, hein, bleu.
Ah, mais soyez sérieux, c'est une maison sérieuse. La viande, ça ne se mange pas trop cuite.
Nous sommes d'accord.
Ça se mange épaisse et bleu.
Vous refusez toutes les décorations, vous venez de le dire. Il y en a une que vous avez acceptée, c'est celle
agricole.
Du mérite agricole.
Oui.
Exactement. Alors j'aimerais qu'on en parle avec Anne-Laure Femme, justement, parce qu'il y a un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est l'agribashing. France, veux-tu encore de tes paysans? C'est avec ce slogan que le plus puissant syndicat d'agriculteurs, Jean-Louis Debré, la FNSEA et le mouvement des jeunes agriculteurs ont manifesté la semaine dernière dans toute la France. Alors Anne-Laure Femme, vous avez eu envie de revenir sur ce mot, l'agribashing. Qu'est-ce que c'est?
On entend beaucoup ce mot et moi, je préférerais ne pas l'utiliser et je vous expliquer pourquoi. Je vais d'abord revenir sur ce qu'il veut dire. Le malaise des agriculteurs, ce serait la faute à l'agribashing. Vous l'avez entendu dans les médias. C'est la contraction de agriculture et bashing. Bashing, c'est un terme anglais qui va désigner le dénigrement systématique dont s'estiment victimes des gens, en l'occurrence les agriculteurs.
Alors qu'est-ce qui a favorisé l'usage de ce mot, justement?
À mon sens, ça va être un terreau composé de polémiques. Vous avez la polémique récente autour du glyphosate, avec la condamnation de Monsanto aux États-Unis, l'usage des phytosanitaires qui pose problème aux élus, Et puis aussi, en polémique un peu moins nouvelle, tout ce qui a trait au bien-être animal. Souvenez-vous des vidéos de l'abattoir d'Alès par L214, publiées il y a 3 ans. Et de manière générale, ce sont les sujets très nombreux dans la presse qui sont présumés relever d'une pensée opposée au mode de production agricole dit conventionnel et intensif.
L'agribashing pourrait quand même influencer donc du coup le comportement des consommateurs, Anne-Laure.
C'est cette idée qui me dérange beaucoup. Non, ce n'est pas l'agribashing qui a par exemple favorisé la baisse de consommation de viande qui s'opère en continu depuis déjà les années 80, ça date. Ce n'est pas l'agribashing qui influence la pression de la grande distribution sur les agriculteurs. Ce n'est pas l'agribashing qui donne un salaire moyen mensuel très modeste de 1250 euros aux agriculteurs en moyenne. Et ce n'est pas l'agribashing qui, depuis les années 60, fait qu'on constate une surmortalité par suicide dans la profession.
Alors Jean-Louis Debré, vous qui êtes l'observateur d'un monde qui change, on a une agriculture à deux vitesses, il y a deux modèles agricoles. Qu'est-ce que vous en pensez là, de cet agribashing actuel ?
Que ce monde, l'agribashing, c'est de l'intolérance. C'est quelques-uns qui veulent nous imposer leurs idées. Donc je suis très contre. Je crois profondément au retour à une agriculture moins protégée par tous des produits, des pesticides. Simplement, la seule difficulté, c'est qu'il faut que ça soit au niveau européen. Et je suis fasciné de voir que l'Europe, elle s'occupe des plaques d'immatriculation des bagnoles, mais elle est incapable d'imposer à l'ensemble des agriculteurs
une harmonie,
et notamment sur l'utilisation des produits. On sait qu'il y a un certain nombre de produits qui sont toxiques. Eh bien, il faut les supprimer. Alors peut-être faudrait-il moins qu'il y ait moins à Bruxelles de groupes de pression de ces grosses sociétés qui veulent vendre à tout prix.
On se retrouve tout de suite avec notre plat du jour. Deux produits que vous adorez, Jean-Louis Debré, la viande de Bazas et les huîtres du bassin d'Arcachon. Ce sera juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. A tout de suite.
11h30, la table des bons vivants. Laurent Bariotte.
Et un joli Beaujolais. Il est midi passé, on vous prépare le plat du jour. Dans un instant, nous sommes en compagnie de Jean-Louis Debré, bon vivant, érudit, sagement attablé avec nous. Vous venez de sortir un très joli livre chez Albin Michel, Le Temps des huîtres, qui raconte la naissance des huîtres dans le bassin d'Arcachon. Alors on revient à des temps très anciens, c'est amusant. On apprend beaucoup de choses justement sur le travail de ces travailleurs de la mer.
À travers une famille... 12 générations d'ostréiculteurs.
C'est incroyable, oui. Vous avez toujours l'œil qui frise, Jean-Louis Debré, l'essence toujours en alerte. C'est quoi le secret de votre forme ? C'est un régime carnivore, végétal ? C'est des petits jus de fruits matinaux ?
Alors, c'est un, le matin, je vais chez Beaujus, rue Villédot, et je me prends un jus de légumes. Après, 10 km à pied, chaque matin.
Bien.
Chaque
une vraie
matin.
Routine.
Manger, bouger.
Ouais. Après, la viande. Je suis désolé, je suis carnivore.
Mais soyez pas désolé, on en a une très bonne à vous servir dans un instant, justement.
Alors, donc un jour de la viande, un autre jour, un plateau de fromage uniquement.
On en a un beau, là, justement, de la maison 4 hommes avec des fromages au lait cru, donc qui ont du goût.
Au lait cru. Pourquoi j'aime les fromages ? Parce qu'on voyage. Pour moi, la gastronomie, c'est à la fois une émotion, mais aussi un rendez-vous avec l'histoire et nos régions. Quand je vais en Normandie, je vais à Pont-l'Évêque ou à Camembert et on voit les gens comment ils travaillent avec amour. C'est pour ça que je suis très, très, très réservé et hostile à tous ces fromages devenus pasteurisés, dégueulasses,
Etc. Et qui ont l'autre droit de bénéficier des appellations d'origine protégée.
C'est un scandale.
C'est un scandale, nous sommes d'accord. On en parle cette semaine justement parce qu'on fête les appellations d'origine protégée, mais on est en train de permettre à ces appellations d'inclure du lait pasteurisé. Ça transforme le goût des fromages.
Le loup est entré dans la bergerie.
Exactement.
Il faut soutenir les producteurs de fromages fermiers.
Alors, on va soutenir justement les éleveurs actuellement parce que vous venez de le dire, Jean-Louis Debré, vous aimez la viande rouge. Vous aimez la viande de Bazas, qu'on appelle aussi la Bazadaise. Vous êtes chevalier de la confrérie de la viande de Bazas. Et comme vous avez aussi écrit un livre sur les huîtres, ça peut paraître surprenant, mais on va essayer de réunir les deux, la viande rouge et l'huître. Et ne soyez pas surpris parce que de nombreux chefs le font, Jean-Louis.
Oui, et je connais un petit restaurant près d'Arcachon, à Caillouette, qui fait un steak aux huîtres.
Eh bien, on vous emmène pas loin, justement. On vous emmène à Gare aux Papilles, à Bordeaux, avec Tanguy Lavial, qui est le chef de ce restaurant. C'est un bistronome formé à l'école Ferrandi. Une recette avec des produits du coin, mais revue à travers la cuisine créative de ce chef. Écoutez.
Alors nous, on aime bien le côté terre et mer. C'est un peu une signature du restaurant. Le côté très iodé des huîtres du bassin, avec un côté très viandard, saignant de bœuf de Bazas. Voilà, le morceau de bœuf bien épais, 15 secondes par face. On veut que ce soit bien coloré à l'extérieur, mais on ne veut pas que la cuisson commence à l'intérieur.
Et vous allez à présent...
Je déglace à sauce soja et on roule dans le soja qui est en train de réduire. on finit par avoir une viande chaude, bleue, donc saignante, sans avoir agressé les fibres. Voilà, l'important pour la cuisson viande et poisson, c'est le repos.
D'où l'expression là, bleu chaud, hein, par rapport à ce que vous venez de décrire.
Exactement. Une belle huître. Nous, on prend de la numéro 3, bien charnue.
Et qui arrive directement du bassin d'Arcachon, ouais, que Jean-Louis Daubré connaît bien.
Voilà. Je récupère le jus des huîtres, votre huître bien à plat sur la planche, et vous mettez 4-5 gros coups de couteau. On garde des gros morceaux pour avoir un maximum de goût. Mes tomates confites, je les ai hachées grossièrement également. Je vais rajouter mes noisettes.
Là, vous mélangez vraiment tout, hein, énergiquement.
Voilà, pour avoir une belle association, un truc bien homogène.
Donc là, on met les petites tranches à côté du chutney.
À côté du chutney, et on boit quoi?
Ah, ça, c'est vous qui allez répondre, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls, alors?
Bah, la viande rouge, les vins rouges, bien sûr. Alors, c'est le petit piège, c'est qu'on rajoute de l'huître.
Huîtres, ouais.
Pas facile.
Le trait de tomate.
Le trait de tomate, mais on va quand même rester dans le vin rouge, parce que d'ailleurs, des vins un peu poivrés avec l'huître, ça peut marcher. Mais là, je sais qu'on est à Bordeaux, mais j'irais plutôt sur un vin de la Vallée du Rhône, une Syrah, notamment du nord de la Vallée du Rhône, peut-être un Saint-Joseph ou un Cros Hermitage, quelque chose d'un peu poivré, d'un peu épicé.
Eh ben, merci à Stéphane Place, en tout cas, notre correspondant d'Europe 1 dans la région, et merci à Tanguy Lavial pour ce plat. Alors évidemment, on n'a pas pu faire venir ce plat à Paris. Nous sommes allés chercher un faux filet de race bazadaise pour vous, Jean-Louis Debré, chez Bidoche, qui est une boucherie-restaurant dans le 11e arrondissement de Paris.
Ah bah je note.
Et nous l'avons cuit, Bidoche, c'est facile à retenir. Et on l'a cuite bleue, c'est comme ça que vous l'aimez, hein?
Ah bah,
verdict.
C'est comme ça qu'on mange la viande. Il faut qu'elle soit épaisse, bleue et chaude.
Elle est fondante.
Bah, c'est ça. Oh là. Mais là, comme on dit, c'est bleu ou mal cuit. Bleu ou dégueulasse, moi j'avais ça. Non mais, un jour, je me souviens, un déjeuner officiel, c'était à l'Elysée, on sert une semelle. Le roi Chirac, c'est incroyable. Alors, chez vous, on bouffe des trucs dégueulasses. Vous, le Corrézien.
Et qu'est-ce qu'il dit?
Il me dit, ben, on va donner des instructions.
De manger de la semelle.
Mais c'est dégueulasse.
C'est quoi, il recevait des cordonniers ce jour-là?
Non, mais parce qu'il y a trop de monde et que... Déguster, c'est aussi déguster entre amis. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Et il en reste terminé là, votre viande de bazas. On revient juste après ça pour répondre aux questions que vous avez posées, amis auditeurs, sur le répondeur des bons vivants. Vous savez, le 39-21. Pensez-y, hein, au 39-21, il est ouvert toute la semaine. Bon samedi midi à la table.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Une belle viande de bazas en compagnie de Jean-Louis Debré. On fait bonne ripaille ce samedi à la table des bons vivants. Jean-Louis Debré, impossible de dissocier votre nom de celui de Jacques Chirac, votre compagnon de route. Une amitié qui a survécu aux trahisons de la vie politique. Hein. Une chose qui vous séparait toutefois de Jacques Chirac,
ah oui,
c'est la tête de veau.
Ah, c'est la tête de veau. C'est le seul point où je n'ai pas été fidèle. Et je l'avoue, je reconnais. Et même un jour, j'allais à la foire du livre de Brive. Et je dis, monsieur, je vais à la foire du livre de Brive. Ah, très bien. Je vais chez Francis à Brive, restaurant incontournable.
Institution.
Francis arrive et me dit, ça y est, c'est commandé. Il dit, Chirac m'a appelé, on va te servir une tête de veau. Je dis, mais malade, mec, je n'aime pas ça. Je rentre à Paris et Chirac me dit, alors, Francis m'a dit que tu n'as pas respecté mes instructions. Oui, monsieur, ça fait 30 ans. Mais je vais vous raconter le dernier dîner que j'ai pris avec Chirac.
Ah oui, s'il vous
C'était,
plaît.
C'était chez le Père Claude.
Dans une brasserie du 7e arrondissement, ouais, de Paris.
Et Chirac m'a dit, on va déjeuner tous les deux. J'ai faim. Alors on arrive chez le Père Claude. Et quand je déjeunais le dimanche avec Chirac, c'est lui qui commandait pour moi. Alors il dit, on va se mettre en bouche. Un petit boudin noir.
Boudin noir.
Après, une andouillette.
Oui, c'est bien pour démarrer.
Après quoi, 6 escargots.
Oui.
Et il me dit, on termine par un foie de veau puré, mais on ne prend pas de dessert.
Bah non. Ce serait péché.
On a l'impression d'entendre Gabin dans le tatoué. Hein.
C'est ça. Quel appétit. Alors vous le savez, la bande des bons vivants est à votre écoute tous les samedis, grâce notamment au 39-21. Posez vos questions, les amis, on vous répond. En voici une, justement, sans répondeur.
Bonjour, c'est Laetitia de Rodez. Je vous appelle parce qu'on m'a toujours dit d'enlever les graines du piment pour éviter que ça pique trop. J'ai fait l'expérience avec et sans graines et ça pique vraiment toujours autant. Du coup, je voulais savoir, est-ce que vous auriez des astuces pour éviter que ça brûle et que ça pique trop? Voilà, merci et bonne émission.
Merci Laetitia, ça chauffe hein, le piment. Alors ce ne sont pas les graines, Anne-Laure Femme, qui chauffent. Hein.
Non, c'est la petite peau blanchâtre à l'intérieur du piment. C'est là ça. Que se concentrent les 9 dixièmes de la capsaïcine. C'est la substance qui pique et qui échaude pas mal.
C'est la membrane qui soutient les graines. Hein. Voilà. On pense que ce sont les graines, mais non, c'est la petite membrane blanche qui est juste avant qu'il faut retirer. En fait.
Vous incisez le piment et puis vous prenez le bout d'un couteau et vous grattez très doucement. Voilà. Et surtout, vous ne mettez pas les mains sur votre visage.
Mais surtout pas, si vous ne voulez pas que les piments vous chauffent, il faut manger les carottes.
c'est aussi une solution.
Moi, j'adore les piments.
Il y a des piments
j'adore
plus
le boudin, du piment. Je mets du piment partout.
Bon. Ah oui.
Mais c'est fait pour ça.
Moi, je mets tout. Je suis pareil que vous.
Non, on recevait la semaine dernière Manu Dibango, qui, en matière de piment, disait qu'il baladait avec des boîtes de piments en voyage.
Tellement il ne retrouvait pas les piments assez puissants. Alors, justement, votre question, Jean-Louis Debré, à propos de la cuisine. Sur quel sujet peut-on vous aider à la table des bons vivants? Une question concernant un plat ou une recette?
C'est le poulet Vallée d'Auge. Poulet Vallée d'Auge, oui, mais ce n'est pas uniquement de la crème.
Non.
Car j'ai appelé la fermière qui me fait ce plat et elle me dit si je te dis comment je le fais, eh bien, tu ne viendras plus chez moi.
Vous avez été maire d'Evreux,
oui.
En Normandie.
Et deuxièmement, il y a un autre, mais ça, vous ne pouvez pas le connaître parce que vous êtes trop jeune, parce que vous êtes très parisien, c'est le tourin. C'est la soupe blanche.
Bah
est-ce que vous savez ce que c'est que la soupe blanche?
La soupe à l'ail?
Oui.
Bah bien sûr.
C'est génial.
C'est très bon,
mais
ça.
J'ai essayé. Elle n'était pas bonne. Et il y a aussi le tourin à l'ail. Et le tourin à l'ail, c'est ça, c'est le sud-ouest, c'est très bon.
On va prendre les choses dans l'ordre. Le poulet Vallée d'Auge, c'est simple, on fait revenir des morceaux de volaille coupés en morceaux. On les fait revenir, mais pas trop colorés, juste blondir. On va ajouter de la crème, qui est vraiment une des matières premières de la Normandie, et du cidre aussi. Vous savez qu'il y a du cidre. Voilà, il faut du cidre.
Et c'est la proportion qui est.
Ah oui, bah il faut y aller quand même généreusement. Hein. Ça dépend sur un kilo de poulet, vous allez mettre un bon 400 grammes de crème et un bon demi-litre de cidre. Bon.
Oui. Je vais essayer ce soir.
Et c'est à l'étouffer, c'est très très bon ça, le poulet Vallée d'Auge. Et des pommes, bien entendu.
Hein. Naturellement, manger des pommes.
Toujours des pommes, toujours des pommes, Jean-Louis, bien entendu. N'hésitez pas, le 3921 attend vos appels et vos questions et le groupe Facebook des bons vivants. Vous êtes amoureux de bonnes bouteilles, Jean-Louis Debré?
Ah oui, oui, buvez. Je reprends le slogan que j'avais trouvé dans Rabelais, buvez moins mais buvez mieux.
Et ben, c'est ce qu'on va essayer de faire justement avec Olivier Pouls dans un instant qui nous prépare un tour de France du vin. Ce sera juste avant votre questionnaire des bons vivants. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Classique ou moderne, il n'y a qu'une seule cuisine, disait Paul Bocuse. La bonne. Bon appétit si vous êtes passé à table. Jean-Louis Debré est notre invité. Une viande basadaise, des fromages. La table est à votre convenance.
C'est parfait. C'est parfait. Oui, je suis moins dessert. Une fois, on ne bouffe pas des sushis ou des hamburgers. J'avais très peur en venant. J'ai eu peur.
Vous plaisantez.
On va parler du vin. Le vin, c'est bon. Mais le vin, c'est comme les plats. C'est l'image de la diversité française.
Et puis, c'est l'histoire du vigneron qui est derrière.
C'est
aussi.
Le vigneron. Mais c'est comme vous avez parlé des huîtres tout à l'heure. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de voir le travail de ces hommes,
colossal.
Le travail des ouvriers, de la campagne.
La famille de Denis Belloc depuis 12 générations.
Quand vous voyez le travail qu'il faut pour faire venir des huîtres, bon, c'est, les agriculteurs, c'est ça. C'est
la diversité.
Les gens qui travaillent, qui ont amour de leurs produits. Je me souviens, dans l'heure, il y avait une fermière qui vous faisait des poulets, mais vous avez tombé par terre.
Qui ont gambadé,
parce
qui sont musclés.
Gambadé,
bah bien
ils
sûr.
Un peu musclés. Et voilà.
Jean-Louis Debré, vous qui avez connu de nombreux déjeuners et dîners officiels, vous devez avoir eu des révélations gustatives et des déceptions peut-être aussi, non?
Je n'ai eu dans les déjeuners officiels que des déceptions.
À ce point-là, vraiment?
Oui, parce que c'est une cuisine trop souvent
ennuyeuse.
Une cuisine internationale qui doit plaire à tous les goûts. Or, moi, j'aime la cuisine
extrême.
Quel tempérament. Chirac me dit à la femme, il disait, tu viens jamais à dîner à l'Élysée. Mais si, je m'emmerde. Non, c'est mon téléphone.
C'est le téléphone. C'est quoi la musique?
C'est non, la Marseillaise.
Alors, ça a changé.
Non,
c'est la Marseillaise. Hein.
Alors, pour les gens de droite, c'est Marseillaise.
Oui, c'est quelqu'un de droite qui appelle.
Pour les gens de... Oui, mais il attendra. Pour les gens de gauche, c'est l'international. Pour les députés et sénateurs, c'est l'opportuniste de Dutron. Et pour les grands chefs qui veulent devenir président de la République, c'est je me voyais déjà.
C'est beau, bravo.
Ah oui,
bravo.
Ils sont sourds là.
Alors on va parler justement du vin avec Olivier Pouls. On va parler des vins de France. Que sont les vins de France? On voit cette appellation dans les rayons. Ils ont souvent mauvaise réputation, mais on a besoin de votre éclairage, Olivier. Est-ce qu'ils sont bons ou pas bons, les vins de France? Bon, moi j'ai ma petite idée, mais on vous écoute.
Alors je vais vous répondre, mais avant, un petit préambule. La France a une chance incroyable que le monde entier nous envie. Ce sont les appellations d'origine protégés désormais, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est né dans les années 30, tout simplement parce qu'on se rendait compte que, et c'était vraiment dans l'univers du vin que ça se passait, que des gens faisaient défaut. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans la région de Châteauneuf-du-Pape, ils faisaient du vin, et ils voyaient que Châteauneuf-du-Pape se vendait bien, et donc ils collaient sur leur étiquette ces mentions. Donc il a fallu protéger tout ça, et les appellations d'origine protégée sont nées pour protéger des zones définies dans les années 30. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 300 rien que pour le vin.
C'est énorme. Donc les vins de France, ce sont ceux qui n'ont pas d'appellation d'origine protégée.
Voilà, exactement. On imagine bien, alors les appellations d'origine protégée, c'est plus de 70% de la production, mais il y a des gens qui sont hors de ces zones, qui ne sont pas rattachés à des zones qui ont été définies, mais qui produisent quand même du vin. En prenant un exemple, si dans vos Vosges natales, vous avez envie d'aller planter un petit vignoble de faire du vin, on va sans doute vous donner des droits de plantation, mais il n'y a pas d'appellation protégée de vin de Vosges.
Ce sera un vin de pays, c'est ce qu'on appelle les vins de soif.
C'est ce qu'on appelait avant les vins de table, les vins de pays, et c'est ce qu'on appelle désormais les vins de France. Alors, ça a des avantages, c'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer dans des carcans qui sont tout de même très restrictifs, avec des réglementations lourdes, qui concernent les rendements, les cépages, des pratiques, etc.
Les assemblages.
Vous allez faire un peu ce que vous voulez. Mais bien sûr, vous n'avez pas le droit à l'appellation.
Mais il y a eu des vignerons rebelles quand même qui se sont démarqués dans ce domaine-là.
Oui, il y a une vingtaine d'années, on a vu arriver des gens qui disaient « Non mais finalement, les appellations d'origine sont trop contraignantes. Moi, je veux m'affranchir des règles et je veux pouvoir planter, par exemple, du Cabernet Sauvignon en Bourgogne ou je ne sais pas moi, du Chardonnay à Bordeaux. Ce qui n'est pas autorisé par le cahier des charges. » Donc, du coup, ils se déclassent aujourd'hui en vin de France. Mais ça ne veut pas dire que le vin n'est pas bon. Au contraire, il y a aujourd'hui... parmi ces vins de France, des gens qui font des choses extraordinaires, vendues même très cher.
Oui, on trouve des choses aussi très bon marché dans les vins de France, c'est ça l'intérêt. Bon,
la grande majorité, il faut bien se le dire, il faut être honnête, ce ne sont pas des vins très qualitatifs, ce sont des vins qui sont très peu chers et qui sont vraiment l'entrée de gamme. Mais dans ce milieu-là, il y en a quelques-uns qui méritent vraiment le détour.
Eh ben merci Olivier Pouls, et maintenant Julie Debray, c'est à votre tour de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants. Vous êtes prêts?
Oh, je suis prêt, oui.
On va vous cuisiner bleu, comme la viande de Bajas. Quel est le goût de votre enfance, cher Jean-Louis ?
Alors, le goût de mon enfance, c'est tout de suite, c'est la tarte aux fraises de ma mère. Et ma mère faisait une tarte aux fraises avec des fraises mûres, sur une pâte sablée. J'en ai encore le goût.
Le premier plat que vous avez cuisiné ?
Une omelette au cèpe, ou plus exactement, une poêlée de cèpe.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable, alors, Jean-Louis Debray ?
Le plus beau repas dans le sens inoubliable, c'est tous les jours, avec mes enfants. Pas tous les jours, tous les dimanches, je vois mes enfants. Et là, on se fait des petits plats très simples. Chacun apporte sa contribution, on réfléchit. Mais je me souviens, il y a quelques semaines, on s'est fait une brandade de morue. Mais c'est bon, fantastique.
Ça. Spécialité de Nîmes.
Mais popularisée par les marins qui partaient à Terre-Neuve.
Exactement. Votre pire repas, Jean-Louis Debray ?
Écoutez, j'ai une nature qui fait que j'oublie les moments les pires.
C'est bien. Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer ?
Je ne sais pas. Il faut que... je sais pas. Je veux qu'on m'étonne.
La tête de veau ?
Non, arrêtez vos conneries. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Non, je ne sais pas. Qu'on me propose quelque chose. Mais ça peut être même un morceau de viande, mais cuisiné différemment. Ça peut être même des haricots verts. Que c'est bon, les haricots verts. Mais on les bouffe toujours trop cuits.
Al dente, le haricot vert. J'ai
une passion. Les pâtes fraîches au basilic. Mais il faut que les pâtes soient bien cuites. C'est de plus en plus rare quand je vais dans les restaurants. On vous fait des pâtes qui sont trop cuites, c'est dégueulasse.
Quel plan emmèneriez-vous sur une île déserte, Jean-Louis Debray ?
Une vache de Bazas.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Mes enfants. Mes enfants, mes quelques amis. Si on veut profiter, si on veut avoir une émotion, c'est pas des banquets, c'est simplement avec quelques amis. Alors, j'avais, quand j'étais élu dans le département de l'Eure, quelques fermiers ou fermières, et j'allais chez ceux-là où j'ai pris 4 kilos de suite, mais elles me faisaient des petits plats. Des petits plats bien mijotés, le bœuf mode.
Des classiques, des traditionnels.
Classiques. La poule au pot, c'est bon, avec une vraie farce.
Et voilà un plat anti-gaspi parce qu'on le mange sur plusieurs jours
oui,
en plus.
Mais oui.
Votre adresse secrète, Jean-Louis Debray ?
Alors, mon adresse secrète, c'est la mienne, mais je ne la donnerai pas. J'ai plusieurs adresses. Je n'ai pas envie de me fixer sur un restaurant. J'aime beaucoup le Père Claude, à la fois parce que j'allais à Chirac, parce qu'on retrouve des
plat traditionnel. J'aime bien le récamier parce que, à cause des soufflets. J'ai découvert il y a quelques jours petit, mais c'est pas des grands restaurants, c'est pas les grands chefs. Moi, j'aime pas ça, les grands chefs. C'est chez Fernand, rue Christine, où là, j'ai pris une entrecôte de veau géniale, avec quelques girolles. C'est tout, pas plus, pas
du
moins.
Simple.
Mais voilà.
Le mot de la fin, F-A-I-M, Jean-Louis Debré.
Mais j'ai toujours faim et envie d'avoir faim.
L'envie et le plaisir. Merci Jean-Louis Debré d'être venu à la table des bons vivants. Je rappelle votre très beau livre, hein, Le temps des huîtres avec Valérie Bochnek aux éditions Albin Michel. Eh bien voilà, on découvre comme ça la vie d'une famille d'ostréiculteurs sur le bassin d'Arcachon et le boulot que représente ce travail de l'huître et comment il a changé au fil des générations aussi. C'est ça qui est important de remarquer.
Et comment on peut être inquiet avec le dérèglement climatique.
Bien sûr.
Et les maladies que certaines huîtres prennent, absolument. Merci à Lucille Escourou à la rédaction, Julien Amat, Agnès Vaudin à la programmation, Jean-Luc Arblade à la réalisation. Bon week-end. Faites le marché, la cuisine et le reste aussi. Bon week-end, Justine.
Bon week-end.
Bon week-end.
Bon week-end. Bon week-end. Rendez-vous samedi prochain à 11h pour remettre le couvert à la table des bons vivants.